Merci François. Je me raccorde avec la technique ici. C'est plus facile d'utiliser les mains comme ça. Donc merci Seigneur, ça fait déjà quoi, 3-4 jours de soleil, sauf hier. Il y avait un peu de pluie, mais ça nous a fait du bien. Et bienvenue à tous qui viennent pour la première fois. Donc, je vois quelques visages nouvelles. Donc, bienvenue. Donc, si vous avez le temps, après, laissez-nous vos coordonnées dans un petit papier, une petite feuille derrière. Donc, si vous voulez qu'on prenne contact avec vous pour une prière, une consultation concernant la Bible, et simplement pour une rencontre avec nous, on est à votre disposition. Comme et François l'a dit, on commence une nouvelle série. On a fini avant Pâques et la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu qui est tellement nécessaire pour notre vie présente sur terre. Tellement nécessaire de connaître ce Dieu auquel nous, comme on priait, comme disait tout à l'heure François aussi, Abba Père. Il faut connaître cet Papa, cet Père. Mais aujourd'hui, au lieu de et connaître ce qu'on a fait déjà dans plusieurs semaines, on va entendre ce Papa, ce Père, pour qu'il nous dise comment marcher sur terre d'une façon digne, comme on dit la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on commence une série qu'on a appelée un Dieu, des chrétiens ordinaires avec un Dieu extraordinaire. Mais l'idée, c'est que ces chrétiens ordinaires, nous, on veut devenir extraordinaires comme notre Père il est. Ça, c'est le but de notre série. Ça va être 8 prédications, donc 8 dimanches, pas tout de suite, mais quelques-uns, oui. Ce Dieu, trois en un, nous promet d'être à notre côté dans ce chemin. Et alors, est-ce que vous êtes prêts? Ça, c'est la question. Parce que Dieu va nous dire des choses très intéressantes qui vont bouger notre vie. Peut-être vont bouleverser notre vie. La question, est-ce que nous sommes prêts vraiment à marcher avec Dieu? Une chose à comprendre dans notre vie chrétienne, c'est que la parole de Dieu et la prière sont des choses uniques sources, l'unique source d'aide pour notre marche avec Dieu. Une confusion assez souvent que je trouve avec les chrétiens, c'est voir la différence entre le salut et la sanctification. François, si tu peux mettre le tout premier. Je pense qu'il est prêt, simplement il faut que tu enlèves. Voilà, merci. Là, on voit une ligne de temps. C'est la meilleure façon de le faire pour comprendre. La ligne noire, c'est notre vie. D'accord ? On a un avant et après Jésus-Christ. Et là, c'est l'histoire confirmée par l'histoire. Donc, l'histoire se divise en deux. Ce n'est pas la première fois que je dis ça. Simplement, aujourd'hui, j'ai une image. C'est plus facile comme ça. Alors, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne très bien avant d'arriver à cela, à expliquer cela aujourd'hui. Avant, pour quelques-uns d'entre nous, aujourd'hui, moi, personnellement, à l'âge de 10 ans, j'ai demandé à Jésus d'être mon sauveur. Donc, pour moi, avant mon âge de 10 ans, c'était un avant Jésus-Christ. Mais après l'âge de 10 ans, c'est un après Jésus-Christ. D'accord? Donc, parle d'un moment spécifique dans la vie ou dans lequel le Dieu Tout-Puissant, le Dieu éternel, vient habiter en moi. Alors, quelque chose d'important à se rappeler. On ne peut pas revenir en arrière. Comme on ne peut pas revenir au passé, on ne peut pas sauter à hier pour refaire ce que j'ai pas fait. On aimerait bien dans quelques moments de notre vie, mais on ne peut pas. Mais avec Jésus, c'est exactement la même chose. Dieu dit, j'ai mort pour vous une fois pour toutes. Ça, c'est en Hébreux, chapitre 9, versets 23 à 26. Je vais le lire vite fait. C'est marqué, « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes ne soient pas des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant et pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois. » C'est encore, je explique le verset simplement. Jésus, il est mort combien de fois, c'est marqué dans la Bible? Une seule fois. Donc, si moi, aujourd'hui que je suis après Jésus, ok, et on va le expliquer un peu plus. Et quand on parlera de sanctification, si je pêche aujourd'hui, ce n'est pas que je reviens encore en avant Jésus-Christ. Et sinon, ça serait comme l'écrivain devrait dire, il faudra que Christ soit crucifié encore une fois pour mes péchés. Mais là, la Bible dit que c'est quoi? Impossible. Ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin du siècle, quand il est venu sur terre, il a paru une seule fois pour effacer les péchés par son sacrifice. Amen pour cela. Donc là, ça nous met déjà dans la position, c'est que, d'accord, si un jour j'ai accepté ce cadeau de Dieu, ça veut dire, je vais m'expliquer encore dans la prédication, ne vous inquiétez pas, la chose que je n'explique pas tout de suite, mais vous allez entendre l'explication plus tard. Une fois que j'accepte Dieu dans mon cœur, je ne peux plus revenir en arrière. Je ne peux pas perdre mon salut. Je ne vis pas, ça c'est pourquoi Jésus a dit, je suis venu à vous donner liberté, la vie et en abondance. Alors, il y a des doctrines aujourd'hui qui disent qu'on peut perdre notre salut. La question, c'est que ces personnes qui croient en cela, ils vivent dans la crainte de dire, qu'est-ce qui se passe si je pêche et je meurs sans savoir confesser mon péché? Ah, je suis dans l'impasse. Est-ce que Dieu va vraiment me sauver? Est-ce que j'ai vraiment cette confiance de la part de Dieu? Ou c'est à cause des choses que je fais? La Bible dit en Tite 1, chapitre 1, verset 2, que Dieu ne ment pas. Alors, si Dieu ne ment pas, et après en 1 Jean, chapitre 5, il dit que c'est lui qui a promis. Alors, si c'est Dieu qui ne ment pas, c'est lui qui promet. Est-ce que lui pourra me retirer ce qu'il m'a déjà donné? Non. Non. Et aujourd'hui, je vis dans la liberté. Évidemment, ma nature pécheresse, il est encore là. Pourquoi? On verra dans sanctification toutes ces parties-là. Mais il y a pour expliquer tout cela, il y a un exemple que Jean il cite assez souvent et je pense que c'est très pertinent. Et il dit ceci: dans un village d'Écosse vivait un docteur connu par sa bonté. Après sa mort, quand on examina ses livres des comptes, on trouva plusieurs notes barrées à l'encre rouge avec la mention acquitté. Trop pauvre pour payer. Sa femme, qui n'avait pas le même sentiment de désintéressement que son mari, déclara que ses notes devaient être payées. Elle tenta des poursuites, mais au tribunal, on lui demanda : reconnaissez-vous l'écriture en rouge comme étant de la main de votre mari? Et évidemment, elle ne pouvait rien dire. Alors, répliqua le juge, il n'y a pas un tribunal au monde qui puisse vous faire obtenir des sommes sur lesquelles le créancier a acquis de sa propre main acquitté. Une fois que Christ a acquitté par son sang au rouge, a acquis sur notre vie au rouge, vous êtes mes enfants, il n'y a personne ni quelque chose qui peut nous s'enlever de la main de notre Père. C'est Jean chapitre 10, verset 27 à 30, si vous voulez le lire plus tard. Il y a quelque chose sûr en nous. La parole de Dieu nous dit, l'Esprit Saint vient habiter en nous. C'est le sceau du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui nous dit, c'est lui qui nous fait dire « Abba Père ». Et Jean, chapitre 1, verset 12, nous dit que tout ce qui ont cru, on devient enfant. Et ce ne sont pas nés de la chair, c'est marqué verset 13, ils sont nés de Dieu. Donc il y a un avant, il y a un après. Pourquoi j'insiste tant en cela? Parce que je veux vivre en liberté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas simplement par. Le plus important, c'est parce que la Bible le dit. Et de plus en plus, on parlait avant de commencer avec François, de plus en plus qu'on lit la Bible dans son contexte, on voit que c'est encore plus clair. Et surtout, ça ne dépend pas de moi. Ce n'est pas parce que je fais ou je ne fais pas. C'est parce que Dieu est fidèle. Moi, souvenez-vous, on était morts dans nos péchés. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Jésus, quand on a obéi à l'appel de Dieu, Dieu nous a ressuscités. Je ne peux pas revenir à cet état de mort spirituelle. C'est impossible. Ou, comme 1 Jean et chapitre 5 le dit, soit je connais Dieu, ou soit je ne connais pas. Soit je suis au cœur de ce côté-là, avant Jésus-Christ, ou soit j'ai passé déjà ces câbles, j'ai connu Christ, je suis après. Donc, la vie de sanctification qu'on va passer maintenant, jusqu'au moment, la vie de sanctification après Christ termine quand on va être enlevé, quand Christ viendra chercher son Église. Et là, on ne sait pas comment ça va se passer. Parce que la Bible ne le dit. Ni les songes savent. Merci. Donc, concentrons-nous aujourd'hui dans cela. On vit dans la liberté. On a Christ vit en nous pour ceux qui l'ont déjà. Un autre exemple. Jean a été gentil de me passer le site web où il trouve toutes ces anecdotes. Et ils sont très bien, en fait, ça aide beaucoup. Le grand violoniste Sarast avait un violon dont l'histoire mérite d'être racontée. Il avait été découvert chez un maréchal ferrant, pendu au plafond de la forge et recouvert d'une épaisse couche de suie et de poussière. Par un voyageur qui avait dû s'arrêter là pour ferrer son cheval. Il demanda à l'homme comment ce violon était venu là. Le maréchal ferrant répondit, « Il m'a été laissé en paiement par un voyageur que je n'ai jamais revu. Si vous voulez le prendre, je n'en fais rien. » Le voyageur prit l'instrument et l'emporta chez lui. Il s'aperçut, après s'avoir dégagé de sa souillure et la poussière, que cet instrument était un violon de grande qualité. Plus tard, Sarast l'acquit et en fit son violon préféré. Qui eût pensé que l'instrument pendu au plafond d'une forge et noir et sale pourrait un jour faire vibrer d'émotions des foules enthousiastes dans les grandes capitales mondiales. De même, Christ est le grand artiste capable de purifier entièrement une âme de ses souillures et d'en faire jaillir de merveilleuses louanges à la gloire de son nom. 2 Corinthiens 5:17 dit quoi? Si quelqu'un est au Christ, Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, je vais ajouter une ligne à cet exemple, que c'est génial. J'aime bien. Le violoniste a dû, en premier, nettoyer complètement. N'est-ce pas? Ça a pris du temps. Avant, le violoniste, il n'avait rien, c'était inutilisable. Le violoniste, le grand artiste, a pris le temps, c'est pour dire, a pris le temps pour le mettre ensemble. Et après, il a fallu, après de l'avoir nettoyé, il a fallu un temps pour le faire jouer. Évidemment, l'histoire, il raconte plus vite. Mais il a fallu un temps pour mettre les cordes comme il fallait. Peut-être poncer quelques parties qu'il fallait poncer. L'accorder. Parce que vous, je ne sais pas si vous avez entendu déjà un violon qui ne s'est pas accordé. Ça fait mal aux oreilles. Un piano qui n'est pas accordé, c'est la même chose. Pour moi personnellement, si quelque chose n'est pas accordé, c'est comme si quelqu'un mettait de verre dans mon sang. Ça me fait mal à l'intérieur. Donc, pourquoi je dis cette image? Parce que Dieu va prendre temps avec notre vie. Il va accorder, il va affiner, il va affûter notre vie de façon telle qu'on va jouer des mélodies extraordinaires pour les autres. Vous voyez comment on revient? Un violon ordinaire, pendu, devient un violon extraordinaire, dans les bonnes mains. Mais là, on parle de quoi? De sanctification. Alors, la sanctification, c'est le... Et est-ce que tu peux mettre le deuxième, s'il te plaît? Merci. Deux clics sur les deux. Voilà, merci. La sanctification, c'est le processus dans lequel Christ est formé en nous. Ce processus, c'est le processus où nous devons lui laisser complètement la place de notre vie, le contrôle total. La parole de Dieu dit en 1 Pierre 1, 14, verset 6 et 14 à 16, dit ceci, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas à ce convoitise que vous saviez autrefois. » Ok? Avant. Autrefois, avant Christ. Vous savez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, le mot sanctifié dans la Bible, ça veut dire mettre à part. Donc, ça veut dire c'est un état de séparation. Donc, ces mots apparaissent et j'ai mis 2016 fois, non, 116 fois dans l'Ancien Testament et 31 fois dans le Nouveau Testament. Le mot saint, S-A-I-N-T, ça veut dire mis à part de tout ce qui n'est pas saint. Donc, saint, ça concerne le chrétien, il n'implique pas le fait de ne pas pécher. Ce n'est pas que je suis saint et je arrête de pécher. Simplement le fait d'être mis à part pour Dieu. Alors, dans notre tableau, on voit que là, la sanctification se développe en trois niveaux. Vous voyez, positionnel, j'espère que c'est un mot en français, sinon je viens de l'inventer, positionnel, pratique et final. D'accord? Si vous voyez, on garde la même ligne de temps. Alors, le premier niveau, c'est la sanctification positionnelle. C'est un fait absolument terminé. Pourquoi? Si on voit, François l'a lu déjà, et en Colossiens 1, verset, je ne me trompe pas, 14, si vous savez vos Bibles, Colossiens 1, verset 12, pardon, jusqu'à verset 14. Colossiens 1, 12, 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part au héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres, d'accord? C'était dans le moment où on a dit à Christ d'accepter Christ dans notre vie. Il nous a transporté, voyez le mot, nous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors, on n'est pas encore au ciel. Mais il nous a transporté quelque part. On est aujourd'hui, on est positionnellement saint. Positionnellement dans quel sens? Souvenez-vous, le Père, et François était, et quand on venait, c'était l'année dernière, il s'avait mis une t-shirt noire, une chemise noire ici. Et après, je l'ai mis une t-shirt blanche par-dessus. Le Père, pour mettre un exemple sur quoi, le Père aujourd'hui, quand il nous voit à travers Christ, il nous voit blanc. Donc on a les droits, c'est le Père, c'est marqué là, que c'est le Père qui nous a transféré au royaume de son Fils bien-aimé. Alors, mais le Père nous voit à travers son Fils bien-aimé en blanc, mais le Saint-Esprit qui est encore en nous, il voit qu'il y a encore cette tendance vers le péché. C'est pourquoi on a besoin de cet Esprit Saint pour nous guider dans notre vie chrétienne, dans notre démarche de sanctification. Alors, on dit, on est positionnellement en Christ, on est saint, on est mis à part pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a sauvés. Mais c'était une fois. Dans le moment qu'on accepte Christ, quand le Saint-Esprit vient habiter dans notre vie, le Saint-Esprit, il ne peut pas habiter dans un cœur qu'il ne veut pas. Si la personne ne veut pas Dieu, le Saint-Esprit ne vient pas. On est d'accord? On est mort, spirituellement parlant. Mais si je ne veux pas être vivant, encore une fois, l'Esprit Saint va nous encourager. Regarde tout ce que tu peux avoir si tu es en Christ. Mais si la personne, Denis, il ne veut pas, consciemment, l'Esprit Saint ne va rien faire. Mais une fois qu'on a cru, on est ressuscité, on est assis à côté de Christ déjà, positionnellement, on est saint. La Bible nous appelle qu'on est saint. Alors, cet état de séparation pour Dieu ne peut pas être révoqué. Je disais tout à l'heure, Jean 10, 27 à 30, ils sont dans la main de mon Père, personne ne peut les enlever de la main de mon Père. Cette sanctification positionnelle est complète tant dans les chrétiens qui vivent dans la chair et aussi dans les chrétiens qui est spirituel. Pourquoi cette différence? En Galates chapitre 5, on voit que c'est une église, une église où il y avait des personnes comme vous et moi aujourd'hui, des personnes immatures ou immatures? Immatures, merci. Immatures et spirituelles. Ça, c'est pourquoi l'apôtre Paul les dit à cette église, marchez dans l'esprit. Et ne satisfaisez pas les désirs de votre chair. Pourquoi? Parce qu'il y a cette lutte en nous encore. C'est parce que l'apôtre Paul le dit, même en Romains, je veux faire ce qui est bien, mais cette corps ne veut pas. Le grand apôtre Paul, qui avait une connaissance bluffante des choses de Dieu, il dit, il y a des choses que je ne veux pas faire et je le fais. Pourquoi? Parce que cet corps est encore en moi. Mais grâce soit donnée, l'apôtre Paul dit à la fin de ce passage, mais grâce soit donnée à Dieu qui donne la victoire à travers Jésus-Christ. On lisait tout à l'heure Colossiens 1, 12, 14. Pour avoir part à cet héritage, nous voyons que le Père nous a rendus capables. Notez bien que Paul utilise le mot en temps passé, qui veut ça rendu. En fait, terminé dans le passé. On accepte Christ, on est positionnellement saint. Dieu nous voit saint, à part pour lui. Alors, le second niveau, c'est la sanctification, soit pratique ou expérimentale. On peut utiliser les deux mots, mais on garde celle de pratique. Alors, pourquoi pratique? Parce que c'est le moment où on vit aujourd'hui, c'est après Jésus-Christ. Et comme on ne sait pas quand Jésus-Christ reviendra, c'est tous ces moments-là qu'on appelle la pratique de notre foi. Alors, la vie de sanctification implique la manifestation du caractère divin en moi. C'est possible seulement pour la personne qui est soumise au Saint-Esprit de Dieu. Galates 5, 22 à 25. Galates 5, 22, 25 dit ceci. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Il y a quelque chose dans la vie, dans cette vie pratique, Romains 12, chapitre 12, verset 1, on nous parle qu'il faut se abandonner à Dieu. Il faut être un sacrifice vivant. Une façon de se conduire en accord avec la vocation céleste. Éphésiens, chapitre 4, verset 1. Quand je suis dans cette étape de pratique, je cherche les choses de haut. Colossiens 3, versets 1 et 2. Romains 12, 1. Pour comprendre pourquoi je dis ça. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Comme on expliquait l'année dernière, si je ne me trompe pas, quand les sacrifices ont été faits dans le tabernacle, l'animal qui était sacrifié, il était mis vivant sur l'autel. Paul prend la même image, il la ramène à la vie chrétienne. C'est impossible de travailler avec quelqu'un qui est mort. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il est mort. Il n'a pas de vie. Mais Dieu nous a rendus vivants. Dieu veut travailler avec des personnes vivantes. Donc c'est marqué, je vous exhorte en enfer, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ça, ce n'est pas une fois dans la vie. Ça, c'est tous les jours. Pourquoi? Parce que tous les jours, au moins une fois dans la journée, on a une mauvaise pensée. On veut le mal pour quelqu'un d'autre. Et je peux continuer. On tue quelqu'un avec nos mots. Bip. On haït les personnes, des personnes sans le dire. N'est-ce pas? Alors, ce n'est pas qu'une seule fois dans la vie, pendant qu'on est dans après Jésus-Christ, c'est tous les jours. Je dois déposer ma vie en tant que sacrifice vivant. Alors, il faut que le chrétien se mette volontairement au service de Dieu et assume le compromis avec les conséquences qui viendront. Ça, c'est et la sanctification pratique aujourd'hui. Éphésiens, Philippiens 3, si vous avez vos Bibles, Philippiens 3, versets 4 à 8. On a le témoignage de l'apôtre Paul. Philippiens 3, versets 4 à 8. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance sur la chair. C'est l'apôtre Paul qui parle. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race Israël, donc il était juif, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Donc il connaissait ce qu'il disait. Quant au zèle persécuteur de l'Église, donc il pensait faire du bien, irréprochable à l'égard de la justice et la loi. Mais, verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est très intéressant. Des fois, Dieu va nous demander de tout laisser. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire, une histoire véritable, vraie, de trois couples missionnaires qui ont parti en Équateur. Et avec le désir, vif désir de la part du Seigneur, de partager leur foi, leur expérience de Dieu avec les Indiens. En arrivant, c'était un lieu où personne n'avait été avant. Ils arrivent, une semaine passe, et les hommes, ils ne reviennent plus à la maison. Les trois hommes, ils ne reviennent plus à la maison. Des recherches, ils l'ont trouvé mort dans la rivière de l'Amazonie. Ces femmes, ils étaient là, ils avaient des enfants. Ces trois femmes ont continué cette démarche d'aller dans cette même tribu. Et aujourd'hui, ceux qui ont tué leur mari sont des pasteurs et responsables des églises qui vont encore plus loin dans le ministère. Mais Joël, ça c'est un cas extrême. Peut-être. Mais il y a une conséquence dans leurs actes. Ils sont décidés de les assumer. Comme moi, je décide de vivre de façon sainte, mise à part pour Dieu, il va falloir qu'il y a des choses que je vais devoir laisser. Pas parce que moi, je dois être meilleur. Non, c'est parce que Dieu est saint et Dieu me le demande. Dieu ne va pas me prendre par les cheveux ou me donner un coup de pied pour que je le fasse. Non. Il est amour. Il nous conseille, il nous encourage. La sanctification exige une séparation du péché. On ne peut pas décoller le péché de nous parce qu'on a cette nature pécheresse. C'est seulement ici, quand on verra et dans deux minutes, c'est ici que le péché va être vraiment décollé de notre vie, si on peut dire ça. Ici, là-haut. Mais pendant, on vit avec ce péché, avec cette nature pécheresse, qui nous pousse vers le mal, qui nous pousse dans les tentations à céder. L'expression de la sanctification pratique se manifeste dans la vie de tous les jours, dans la relation familiale, au travail, dans sa relation avec les frères et sœurs dans l'Église, dans son éthique générale. La puissance pour vivre dans la sanctification, nous l'avons en nous. Galates 5:16 dit qu'on a le Saint-Esprit en nous. Et est-il impossible de vaincre les ennemis du chrétien sans l'aide de l'Esprit-Saint? Il est impossible. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas la force suffisante pour le faire. Le troisième niveau et le dernier niveau de sanctification, c'est la sanctification finale. Vous voyez un petit nuage là-haut. Le chrétien, un jour, sera comme lui, comme Dieu. En Jésus, il n'avait jamais péché. Un jour, on va être comme lui. L'Esprit qui a ressuscité Jésus agira en nous pour nous ressusciter et nous glorifier aussi. C'est Romains 8, verset 11. Alors, tournez avec moi simplement en avant, dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 15. C'est le passage où l'apôtre Paul, le grand passage de la résurrection. 15, de verset 51 à verset 56. 1 Corinthiens 15, verset 51 jusqu'à verset 56. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, Paul croyait encore être là, pressant, vivant, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible, encore une fois, on parle de quelque chose, il était encore en vie, d'accord? Que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie de la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec tout cela? Un jour, le péché, il ne va plus être là. Si vous voyez cette partie-là, positionnellement, c'est notre esprit avec Dieu qui est saint. Là, mais là, on est encore avec ce corps. L'Esprit Saint qui habite en nous, il nous sait à vivre d'une façon sainte, en sainteté, dans toute notre démarche. Mais là, un jour, là, quand Jésus viendra chercher son Église, un jour, pas simplement mon esprit, il est à part pour Dieu, mais tout mon corps, moi complètement. Là, l'apôtre Paul parle du cœur. Va te changer. Qu'est-ce qui va changer? Plus de maladies. Plus de lunettes. Amen. Plus de lunettes. Fantastique. Et pas pour les lunettes. C'est parce qu'un jour, tout va être cette vie de tomber tous les jours, ou presque tous les jours dans le péché, va être finie. La sanctification finale. Si nous voyons le tableau une dernière fois, nous trouvons cette flèche qui monte vers le haut pour symboliser le lèvement de l'Église. Ça, on le trouve en 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Nous ne savons pas quand Dieu reviendra. Et pour cela, nous devons de tous nos cœurs lui chercher et vivre une vie en accord à sa volonté. 1 Thessaloniciens 5, 22, 23 dit ceci. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Et que tout votre être, esprit et âme et le cœur soient conservés, quoi? Irréprochable. Lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soit conservé, irréprochable jusqu'au retour. Vous voyez, il y a un processus. Alors, mais il faut qu'il y ait un avant et un après Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas arriver à ça S'il n'a pas passé par cela, ça c'est pas moi qui le dis, ça c'est Dieu qui le dit, ça c'est la Bible qui le dit. Donc, si Christ n'est pas encore fait cette différence dans votre vie, peut-être aujourd'hui c'est le seul moment pour le faire. Si Christ n'est pas encore fait un après dans ta vie, dans votre vie, pourquoi pas le demander aujourd'hui? Dieu, il a tout fait. Il est mort, il est venu, il a vécu une vie sans péché. Il est mort à cause de nos fautes. Il a, comme on a chanté, son sang il a coulé pour effacer nos péchés. Mais il n'est pas resté sur la croix. Il était mis au tombeau, mais au troisième jour, il est ressuscité. Et comme disait la semaine dernière, il est le champion d'amour. Il a vaincu la mort pour qu'aujourd'hui, on ait cet après Jésus-Christ. Et comment on arrive à avoir un après Jésus-Christ? Simplement en lui demandant. Ce n'est pas compliqué. Dieu a fait le plus difficile. Et comme on disait tout à l'heure, pour nous, c'est déjà acquitté. Simplement, il faut dire, je veux cet acquittement pour moi aussi. Pour ceux qui ont déjà un après Jésus-Christ, nous devons vivre une vie en sainteté parce que Dieu est saint. Et si nous sommes enfants d'un Dieu saint, nous avons une responsabilité devant nous. Et j'encourage, je pense que l'Esprit Saint m'encourage moi aussi, de vivre cette responsabilité comme quelque chose de bien. Ce n'est pas un poids sur ma vie. C'est une joie. C'est une joie de servir et de vivre avec ces dieux tout-puissants qui veulent le meilleur pour moi. Prions ensemble pour terminer et pour laisser ce temps à Dieu. Seigneur, merci Seigneur pour avoir fait déjà dans ma vie un avant et après. Seigneur, merci parce qu'un jour tu m'as donné Seigneur ton cadeau Seigneur, ton fils. Et aujourd'hui, avec assurance, je peux voir, Seigneur, un après. Mais Seigneur, si je vois que il me faut continuer à persévérer, Seigneur, dans la sanctification. Seigneur, pour devenir, Seigneur, un chrétien extraordinaire. Seigneur, merci parce que tu es déjà extraordinaire et tu nous encourages à vraiment à le devenir. Et avec nos têtes baissées et nos yeux fermés, simplement, je vous demande simplement une minute de respect entre chacun de nous. Personne ne nous regarde, moi non plus. Réfléchissez dans votre vie. Si vous voyez un avant et un après dans votre vie, amen. Mais si vous ne voyez cet après, si vous n'avez pas connu Christ avant et vous voulez le connaître, peut-être c'est le seul moment aujourd'hui. Vous pouvez le dire dans le silence de votre cœur. Jésus, je sais que je suis pécheur. Je sais que par ma propre force, je ne peux pas arriver au ciel. Merci d'avoir mort à la croix pour moi. Merci que ton sang me lave de mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Si vous avez fait ça, Dieu nous promet. Celui qui a cru et a voulu cela, il devient un enfant de Dieu. Mon frère et sœur en Christ, la vie de sanctification, c'est quelque chose que Dieu veut. C'est pas un choix à oui ou non. C'est une demande forte de Dieu. Mais on peut vraiment attrister Dieu ou l'Esprit Saint et ne pas entendre sa voix. Mais Dieu veut tout le contraire. Dieu veut qu'on vit en liberté et en paix. Simplement, il faut être obéissant. Seigneur, je te prie pour ma vie aussi. Aide-moi à être obéissant. Et pas simplement, Seigneur, dire une fois, oui, je vais le faire et c'est bon pour tout, pour à jamais. Mais Seigneur, ce n'est pas comme ça. On le voit, Seigneur, dans ta parole, même dans les différents écrivains qui ont marqué qu'ils devaient revenir chaque jour à toi. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta parole. Et Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, continue à faire un changement dans notre vie. En ton nom. Amen. Merci.